Alors, on va reprendre notre travail. Nous avons hier commencé à aborder l'arrière-plan de notre étude. Et j'ai essayé hier de vous montrer dans quel cadre se situait le discours de Jésus qui est rapporté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et vous vous rendez bien compte que lorsqu'on lit simplement le chapitre, tout l'arrière-plan de l'Ancien Testament nous échappe. Et la signification de ce que Jésus est en train de faire va beaucoup plus loin que Jésus qui s'assied et qui discute avec ses disciples. C'est en réalité l'accomplissement d'une prophétie ancienne qui a traversé l'Ancien Testament et qui se trouve accomplie dans la personne de Jésus. J'aimerais encore ce soir continuer à partir de notre texte. Et vous comprenez bien que s'il nous fallait analyser tout ce qu'il y a dans ce texte, nous aurions besoin de beaucoup plus que 6 rencontres. Aujourd'hui, j'aimerais prendre dans ce chapitre ce qui est relatif aux signes de la fin. Parce que ce chapitre-ci est basé sur une analogie entre la fin de Jérusalem et la fin des temps. La chute de Jérusalem et les événements qui entourent la chute de Jérusalem sont au centre de ce chapitre. Et Jésus va utiliser ces événements-là pour faire comprendre les événements qui vont entourer les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Alors, nous avons besoin de comprendre les signes qui ont précédé la chute de Jérusalem pour comprendre quels seront les signes qui vont précéder la fin des temps. Et comme on le mentionnait hier, vous avez remarqué que lorsque Dieu parle, les choses se réalisent telles que Dieu les dit. Ainsi, les prophéties qui se sont réalisées lors de la chute de Jérusalem en l'an 70 et que Jésus a utilisé comme étant des signes avant-coureurs de la fin, vont se réaliser tout aussi sûrement. J'ai donc besoin de les connaître. Ce soir, nous allons regarder ces signes et voir à quoi ils nous conduisent. Et puis, dans les prochaines conférences, nous allons regarder aussi les causes. Savez-vous quels sont les signes avant-coureurs? J'aimerais commencer d'abord par vous parler un petit peu de la structure de ce chapitre 24 de Matthieu. J'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait que ce chapitre n'est pas écrit au hasard. Il est organisé, il est plus organisé que le chapitre équivalent dans Luc et dans Marc. Luc 21 et Marc 13 sont les chapitres équivalents où nous retrouvons les mêmes données. L'organisation du chapitre 24 est en gros la suivante. Vous vous rendez compte d'après le texte qu'à 3 reprises dans ce passage, Jésus arrive à la fin des temps. Il y arrive d'abord au verset 14 où il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Et puis, on arrive quelques versets plus loin, au verset 27, où il est dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Deuxième fois. Et la troisième fois se trouve au verset 30, alors le signe de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, etc. Donc on arrive avec un texte qui présente à 3 reprises le retour de Jésus. Le retour de Jésus apparaît au verset 14, au verset 27 et au verset 30. Et en lisant le texte, vous allez vous rendre compte que nous avons finalement 3 récits qui sont représentés par ces 3 lignes, mais qui ne commencent pas toutes au même moment. La première ligne commence après la mort de Jésus et donne les signes dont nous allons parler ce soir, couvre une grande période de temps qui est connue comme la grande période de persécution auquel le prophète Daniel et l'Apocalypse font allusion, d'ailleurs de façon précise, en donnant cette période de temps sous plusieurs formes. Et puis on retrouve ce que Jésus expliquait, c'est-à-dire ces signes qui annoncent la destruction de Jérusalem, on les retrouve comme annonce aussi du retour de Jésus. Le deuxième récit, qui termine au verset 27, commence au moment où Jérusalem est détruite. Nous retrouvons rapidement aussi cette grande période de persécution et les signes finaux. Et finalement, le dernier récit est très court. Il fait simplement mention, non pas de signes cette fois-ci, qui sont du ressort humain, mais des signes célestes, des signes dans le ciel, dans la lune, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Des signes pour lesquels on ne peut pas dire que les hommes aient quelque chose à faire avec ces signes-là. des signes, j'allais dire, presque incontestables, parce qu'ils ne sont pas du tout manipulables par l'humain, et ce sont des signes qui se rapportent en réalité juste au dernier signe qui annonce le retour de Jésus. Ainsi, Jésus, qui fait allusion au prophète Daniel dans Matthieu 24, est tout à fait conscient qu'il y a dans Daniel la source des informations dont nous avons besoin pour comprendre ce qui se passe à la fin des temps. Voilà une structure du chapitre 24 de Matthieu, et ça vous donne une idée de la façon dont le texte est organisé. Ce n'est pas au hasard que les choses ont été placées, mais elles sont véritablement structurées de façon à ce que nous puissions suivre ces événements en relation avec les prophéties de Daniel et d'Apocalypse. Quels sont donc les signes ? Nous allons les regarder ensemble et les voir brièvement parce que nous ne pouvons pas les regarder en détail, mais dans Matthieu 24, au verset 4 à 8, il est dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Vous remarquez ici qu'à deux reprises dans ce texte, Jésus dit « Attention, ça, ce ne sera pas la fin. » Et ce texte se situe juste avant que Jésus parle de la destruction de Jérusalem. Pour nous faire comprendre que ces signes sont des signes qui vont précéder et la destruction de Jérusalem et la fin des temps. Regardons rapidement ces signes, les faux Christ et les faux prophètes. J'ai été chercher dans le livre de Flavius Joseph différents textes historiques que nous allons regarder ce soir et de les comparer avec le texte biblique. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, il nous est dit « Il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. » Nous avons donc ici dans le livre des Actes référence à deux de ces individus qui se sont mis en avant comme étant les sauveurs du peuple. Et ici, il nous est dit, cette affaire est tombée à l'eau toute seule, d'elle-même. Ce qui est intéressant, c'est que nous retrouvons dans les écrits historiques référence à ce personnage. J'ai relu un bon nombre de chapitres écrits par Flavius Joseph, qui est un historien du 1er siècle. Il a écrit ces deux livres qui sont des livres volumineux, l'histoire ancienne des Juifs et la guerre des Juifs contre les Romains. Nous allons prendre quelques références. Ce sont des livres absolument passionnants, pour ceux qui aiment l'histoire, enfin, qui rapportent en détail tous ces événements qui ont précédé et suivi aussi la chute de Jérusalem. Il raconte ça en détail parce que lui-même était un Juif. Et il s'est rendu compte de la situation du peuple hébreu et il a été tellement dégoûté de voir comment les choses étaient gérées par son peuple qu'il est parti dans le côté des Romains. Et il était à côté de Titus lorsque le siège de Jérusalem a eu lieu. Et Flavius Joseph a servi aussi un peu d'intermédiaire. Il a plaidé envers son peuple pour que son peuple se rende et évite la grande catastrophe. Et il s'est mis du côté des Romains pour essayer de sauver son peuple en l'amenant à une reddition. Ce qui n'a pas fonctionné. Mais en étant un peu de l'autre côté, il a raconté l'histoire de son propre peuple et sa vision sur la situation est extrêmement intéressante. J'ai sorti quelques textes qui sont intéressants et qui vous montrent à quel point l'histoire nous rappelle ce qu'il y a dans les Écritures et le confirme. Pendant que Fadus était gouverneur de Judée, un enchanteur nommé Teudas persuada une grande multitude du peuple de prendre tout leur bien et de le suivre jusqu'au Jourdain, disant qu'il était prophète et qu'il arrêterait d'une seule parole le cours de ce fleuve pour le leur faire passer à pied sec. Il en trompa ainsi plusieurs. Vous remarquez comment Flavius Joseph reprend en particulier le nom de ce Teudas pour expliquer ce qu'il avait fait. Et on se rend compte qu'ils avaient réussi, lui et d'autres, à mobiliser beaucoup de gens pour suivre leur fantaisie. Dans un autre passage, Flavius Josèphe parle justement de tous ceux qui se prétendent être des sauveurs, des messies pour le peuple. Trompeurs et imposteurs prétendaient être inspirés de Dieu. Préconisant des changements révolutionnaires, ils persuadaient la multitude de se comporter comme des enragés et ils les conduisaient dans le désert en leur faisant croire que Dieu leur donnerait là des manifestations de sa délivrance. Multiplication de sauveurs, multiplication de faux Christ, de faux prophètes, qui vont enflammer l'imagination de certaines personnes et leur faire faire des choses invraisemblables. Après avoir décrit ces choses et d'autres événements encore assez incroyables, Flavius Josèphe lui-même conclut en disant « Qui s'étonnera après cela ?» que Dieu ait regardé Jérusalem d'un œil de colère et que sa sainte maison, ayant perdu la pureté qui la rendait si vénérable, il ait envoyé les Romains pour punir par le fer et par les flammes cette misérable ville et emmener ses habitants esclaves avec leurs femmes et leurs enfants pour nous faire entrer en nous-mêmes par un châtiment si terrible. Lui-même tire la conclusion, on comprend que Dieu ait finalement fait quelque chose devant ces abominations qui se font au sein même de son peuple. Dans un commentaire du siècle passé, on lit ceci. « De nombreux faux Christ apparurent dans l'intervalle qui s'écoula entre la crucifixion et le siège de Jérusalem. » Cet avertissement s'adresse aussi à la génération actuelle. Les mêmes séductions qui ont précédé la destruction de Jérusalem ont entraîné les hommes à travers les âges et les entraîneront encore. C'est en réalité ce que Jésus essaye de dire dans ce chapitre de Matthieu 24. Comprenez ce qui s'est passé dans le passé pour ne pas reproduire les erreurs de l'histoire. Dans Jérémie, au chapitre 35, nous retrouvons cet appel. En fait, si Dieu agit, c'est en réalité qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Dieu parle ici par son prophète et il dit « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous n'avez pas écouté, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. » Ce n'est pas que Dieu n'a rien fait. Il a fait tout ce qui était possible de faire. Il a appelé, pas de réponse. Il a parlé par ses prophètes, ils ont tué les prophètes. En fait, ce n'est pas nécessaire que Dieu fasse quelque chose. Il suffit, comme on mentionnait dans notre dernière conférence, que Dieu se retire. Il n'y a pas besoin que Dieu les punisse. Lorsque Dieu se retire, le mal arrive. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Qui est encore le langage de Matthieu 24. Vous reconnaissez dans ce texte quelque chose que nous connaissons aussi dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5, où il est dit à la fin, les hommes vont dire « paix et sûreté ». Tout est sous contrôle, n'ayez peur de rien, on a tout en main. En fait, ils n'ont rien en main du tout, pas plus qu'à cette époque-là. Ce qui se passait à ce moment-là, l'apôtre Paul le reprend aussi comme étant un signe de la fin des temps, dans son épître aux Thessaloniciens. Faux prophète du temps de Jérémie, c'est-à-dire juste avant la première chute de Jérusalem. Les mêmes signes étaient présents aussi à ce moment-là. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, « Écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Anania, le prophète, mourut cette année-là dans le septième mois. Ces faux prophètes, nous dit Jérémie, ont une caractéristique. Ils inspirent une fausse confiance et ils excitent le peuple à la rébellion contre Dieu. Nous avons dans ce passage-là la substance des faux prophètes. Et remarquez une chose, c'était particulièrement vrai à l'époque de Jérémie, et c'était particulièrement vrai aussi à l'époque de la destruction de Jérusalem. Malheureusement, les prophètes de malheur sont les vrais prophètes. Et les prophètes de bonheur, comme c'était l'époque à ce moment-là, étaient précisément les faux prophètes. On a donc, avant la première chute de Jérusalem, les mêmes signes qu'avant la deuxième. Mais ce malheureux peuple est d'autant plus à plaindre, écrit Flavius Joseph, qu'ajoutant aisément foi à ces imposteurs qui abusent du nom de Dieu pour le tromper, ils fermaient leurs yeux et se bouchaient les oreilles pour ne point voir et ne point entendre les signes certains et les avertissements par lesquels Dieu lui avait fait prédire sa ruine. Il y avait donc des Juifs comme lui qui étaient capables de prendre du recul, d'analyser la situation et de se rendre compte qu'ils allaient tout droit à la catastrophe. Dans le texte que nous avons vu tout à l'heure, il y avait les faux prophètes, il y avait les faux Christ, il y avait aussi les guerres. L'historien romain, cette fois-ci, Tacite, historien de la deuxième moitié du premier siècle, écrit ceci dans les Annales. « Cette portion de l'histoire que je rapporte est une période remplie de désastres, de terribles batailles, de guerres civiles, même en temps de paix. 4 empereurs tombèrent par l'épée. Il y eut 3 guerres civiles et encore bien davantage de guerres à l'extérieur, et souvent les deux en même temps. » Donc les historiens de cette époque-là sont conscients qu'ils se trouvent dans une époque qui est particulièrement notoire par les troubles qui s'y développent dans tous les domaines. Ils l'écrivent. Jésus l'avait prédit aussi. Il y a une période appelée la Pax Romana, la paix romaine, qui a duré entre l'époque de Claude et de Néron. Et les historiens de cette époque-là rapportent les choses d'une façon intéressante. Ils expliquent que pendant cette période de la Pax Romana, les choses étaient tranquilles et paisibles dans l'Empire. Exception faite peut-être de ce qui se passait à Jérusalem. Mais lorsque Néron est mort, ils expliquent que toute la situation est partie hors de contrôle, que la situation de l'Empire était véritablement une situation de chaos total. Il était question des famines. Dans le livre des Actes se trouve aussi une indication de ces famines entre la crucifixion de Jésus et la destruction de Jérusalem. L'un d'eux, nommé Agadus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. On a donc trace de cela dans le livre des Actes. Et il est dit dans les Lamentations de Jérémie, par rapport à la première destruction de Jérusalem, « Ceux qui périrent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Leurs femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture au milieu du désastre de la fille de mon peuple. » Je sais qu'on trouve aujourd'hui des abominations incroyables. Mais Jérémie explique qu'avant la première destruction de Jérusalem, voilà les situations qu'on va rencontrer. Cette situation sera aussi lors du siège de Jérusalem en l'an 70. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que 850 ans avant à peu près, Dieu en avait parlé. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, il est dit ceci. « L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi comme d'un vol d'aigle. » Notez encore les aigles ici d'ailleurs. « Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. La femme d'entre vous la plus délicate, la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse, n'essayant pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils, pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te rendra ton ennemi dans tes portes. Est-ce que vous imaginez ce que ce texte annonce? Dieu parle ici par Moïse à l'époque du Deutéronome, c'est-à-dire au moment où Israël va rentrer dans la terre promise. Et Dieu annonce qu'à cause de ses infidélités, même les femmes les plus délicates en viendront à manger leurs enfants secrètement. Dans Tragédie des siècles, que vous avez d'ailleurs sur la table du fond, à la page 32 se trouve ce texte. Bientôt les habitants se trouvèrent réduits à une horrible famine. Plusieurs mangeaient le cuir de leurs ceintures, de leurs sandales et de leurs boucliers. Nombre de gens se glissaient la nuit hors des murailles pour aller chercher quelques plantes sauvages à manger. Les uns étaient capturés et livrés à la torture, tandis que ceux qui réussissaient à rentrer dans la ville étaient souvent dépouillés des provisions qu'ils avaient si chèrement obtenues. Voilà à quelle extrémité les gens en sont arrivés lors de la prise de Jérusalem. Tremblement de terre, c'est le signe que l'on avait parmi les trois premiers signes qui étaient donnés dans le texte de Matthieu chapitre 24. Encore une fois, l'historien Tacite dans les Annales dit ceci. Sous l'empereur Claude, les maisons étaient rasées par des tremblements de terre répétés et la terreur se répandait. Les faibles étaient piétinés à mort par ceux que la panique avait frappés. Il vit à la fin du 1er siècle et rapporte la même époque, celle à laquelle nous faisons allusion. Flavius Joseph de nouveau écrit ceci. Dans la guerre des Juifs, donc à cette même époque, une énorme tempête éclata dans la nuit, de la plus grande violence avec des vents extrêmement forts et d'énormes trombes d'eau. Les éclairs frappaient continuellement, le tonnerre était terrible, et il s'y ajoutait les mouvements de la terre qui étaient des tremblements de terre. Ces choses étaient une indication certaine qu'une destruction allait venir sur les hommes quand le système du monde était frappé d'un tel désordre et chacun pouvait prévoir que ces prodiges annonçaient la venue d'une grande calamité. Écoutez, c'est impressionnant de voir cet homme qui a pris du recul par rapport à ce qui se passait dans son propre peuple, qui voit les signes sans connaître ce que Jésus a dit à ce sujet, bien qu'il ait connaissance de Jésus, qui est ici en train d'annoncer une calamité de grande envergure. Étonnant de voir que les autres ne l'aient pas vu. Le texte nous mentionne aussi les persécutions. Persécutions qui ont eu lieu avant la chute de Jérusalem et persécutions qui vont avoir lieu, bien entendu, après. Cette grande période de persécution auquel je faisais allusion tout à l'heure, de 1260 années, qui nous est connue par le prophète Daniel et par l'Apocalypse, est une grande période de persécution du Moyen Âge. Mais nous avons, avant la chute de Jérusalem, des indications encore à ce sujet-là. Et je passerai rapidement parce que vous les connaissez aussi. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, au verset 8, il est dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Remarquez, ce n'est pas quelque chose de local. Vous serez haïs de toutes les nations. Il y a une réaction globale que l'on retrouve d'ailleurs au travers de tous les âges contre ceux qui veulent suivre la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, il nous est dit « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Et au chapitre 8, il est dit « Saul, qui va donc devenir l'apôtre Paul, mais plus tard, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. » On a donc déjà dans le temps du livre des Actes des indications que ces signes se sont réalisés. Maintenant, Jésus avait annoncé les choses d'une façon très claire. Ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 16 s'applique à cette époque, mais s'applique à toutes les époques. Écoutez ceci. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. C'est la caractéristique de toutes ces périodes de persécution, de ces saintes persécutions pour la défense de la vérité ou de sa vérité, qui conduit des gens à mettre les autres à mort, pensant rendre un culte à Dieu. Vous connaissez le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un exemple caractéristique de ce genre de comportement dans différents endroits du monde. Il y a dans la prise de Jérusalem en 70 un élément intéressant que Jésus a mentionné et qui est important de retenir. Dans Matthieu 24, Jésus dit ceci: « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, etc. » Jésus fait ici allusion à ce que le prophète mentionne dans son livre, l'abomination de la désolation. Nous en avons parlé, ces abominations du peuple qui conduisent à la désolation, c'est-à-dire à sa ruine. Que celui qui lit fasse attention. Dans le même chapitre, le chapitre équivalent dans le livre dans l'évangile de Luc, Luc parle en réalité de cet événement-là comme étant lorsque vous verrez Jérusalem investie des armées. En mettant les deux choses ensemble, on comprend que Jésus est en train de dire, lorsque vous allez voir que Jérusalem est assiégée, fuyez. Mais quand on voit que Jérusalem est assiégée, on ne peut plus fuir, c'est trop tard. Comment la chose s'est-elle faite? Curieusement, en l'an 66, Cestius, un général romain, est venu et a fait le siège de Jérusalem pour les mêmes raisons pour lesquelles Titus va le faire quelques années plus tard. Et Flavius Joseph raconte quelque chose d'assez étonnant. Il dit, Cestius fut si mal informé du désespoir des factieux, donc des rebelles dans la ville, et de l'affection du peuple pour lui, qu'il leva le siège lorsqu'il avait le plus de sujets d'espérer réussir son entreprise. Les assiégés, considérant une retraite si surprenante comme une fuite, reprirent courage, donnèrent sur son arrière-garde et tuèrent quelques cavaliers et quelques fantassins. L'histoire nous raconte ce fait intéressant. Cestius est venu faire le siège de la ville en l'an 66. Et pour des raisons surprenantes, même pour Flavius Joseph, au moment où il était sur le point de prendre la ville, il plie bagage et il s'en va. Il lève le siège. Les Juifs ont dit, voyez que le Seigneur est avec nous. Ils l'ont poursuivi et lui ont fait perdre quelques soldats. Mais les chrétiens qui étaient dans la ville, qui connaissaient la prophétie de Matthieu 24 dont nous parlons, ont compris ce que Jésus a dit. Ils sont tous partis, ils sont montés vers le nord du pays, dans la région de Pella, vers la Syrie, de sorte que lorsque Titus est revenu en l'an 70, il n'y avait plus à Jérusalem un seul chrétien. Ils avaient tous fui grâce à la prophétie que Jésus avait donnée et qu'ils ont prise au sérieux. Pas un chrétien n'a péri dans la prise de Jérusalem en 70. Ils ont prêté attention à ce que Jésus a dit, que celui qui lise fasse attention. De la même manière, je crois que à la fin des temps, comme pour la fin de Jérusalem, ce même phénomène va se produire. Il y aura aussi des signes clairs qu'on est arrivé à la fin. Et il y aura un répit, un court répit, dans lequel les chrétiens devront comprendre ce que les chrétiens de ce temps-là ont compris, c'est qu'on est arrivé à la fin et que la prochaine fois sera la bonne. Ainsi, les chrétiens qui ont pris garde à la prophétie de Jérusalem ont été tous épargnés lorsque Jérusalem a été prise par les Romains en l'an 70. C'est intéressant de voir à quel point Jésus utilise un événement proche dans le temps, le qualifie d'une façon suffisamment claire pour que ceux qui le vivent comprennent ce qu'il faut faire. Je crois que Dieu a qualifié suffisamment clairement les événements de la fin par cette prophétie-là et par les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse pour que ceux qui lisent aujourd'hui soient en mesure de faire la même chose. Finalement, Jérusalem va être prise en l'an 70. Il y a dans le livre de Flavius Joseph de longs chapitres dans lesquels il va décrire le moment où Jérusalem va tomber. J'ai pris quelques exemples pour vous montrer à quel point la situation dans cette ville était devenue indescriptible et en même temps conforme aux prophéties. Il rapporte que la famine était si sévère que les gens mangeaient n'importe quoi. Dans un chapitre, il explique que les gens, les hommes, les êtres humains mangeaient ce que les animaux les plus sales ne veulent pas prendre pour nourriture. Et il raconte ce qui s'est passé dans la ville et qui a tellement ému les gens de la ville que c'est sorti dans le camp des Romains et que Titus en a été lui-même informé. Titus en a été dégoûté. Il est question ici d'une femme dans la ville dont il rapporte les propos. Elle dit ceci: « Enfant infortuné et dont on ne peut trop déplorer le malheur d'être né au milieu de la guerre, pour qui te conserverai-je ? » Après avoir parlé de la sorte, elle tua son fils, le fit cuire, en mangea une partie et cacha l'autre. Maintenant, attiré par l'odeur, nous explique Flavius Joseph, des hommes sont venus parce qu'ils ont senti la nourriture. Ils ont fait irruption dans sa maison et l'ont menacé en lui disant « Donne-nous cette nourriture ». Elle a sorti les restes qu'elle avait cachés et leur a dit « Voilà, mangez ». Ils se sont rendus compte que c'était les restes d'un enfant. Ils ont reculé. Et elle s'exprime à ces hommes de la façon suivante. « Êtes-vous moins hardi qu'une femme ? Et avez-vous plus de compassion qu'une mère ? Si votre piété ne vous permet pas d'accepter cette victime que je vous offre, j'achèverai de la manger. » Est-ce que ça vous donne une idée de ce qui se passe à l'intérieur des murs de Jérusalem avant que la ville ne tombe aux mains des Romains ? Ces hommes n'ont pas mangé. Pourtant, la faim les tenaillait tellement qu'ils étaient prêts à manger n'importe quoi. Mais ils n'ont pas pu manger les restes de cet enfant. Cette histoire s'est répandue. Flavius Joseph la rapporte. Elle nous montre à quel point la prophétie faite par Moïse dans Deutéronome de la part de Dieu s'est accomplie littéralement dans le siège de Jérusalem. Pour en arriver là, vous vous rendez compte qu'il faut que la situation se soit dégradée à un point que nous ne pouvons pas imaginer. Ce qui m'impressionne, c'est la manière avec laquelle cette prophétie se réalise précisément. Je n'ai donc pas de doute que les prophéties de Dieu s'accompliront de la même manière. L'historien raconte encore ceci. Il dit « Lorsque le feu dévorait ainsi ce superbe temple, les soldats ardents au pillage tuaient tous ceux qui s'y rencontraient. Ils ne pardonnaient ni à l'âge ni à la qualité. Les vieillards aussi bien que les enfants et les prêtres comme les laïcs passaient par le tranchant de l'épée. Tous se trouvaient enveloppés dans ce carnage général. » Et l'historien rapporte que dans cette prise de Jérusalem, environ 1,1 million de personnes ont péri. C'était une période de fête. Et il rapporte que dans le moment des fêtes, la population de Jérusalem était extrêmement importante. Il avait sa manière à lui d'évaluer la population en fonction du nombre de sacrifices qui étaient faits. Et il disait à cette époque-là, lorsque l'on célébrait la fête de Pâques à Jérusalem, le nombre des sacrifices à Pâques était environ de 250 000 bêtes. Et il dit ces bêtes, pour être mangées, devait avoir environ 10 personnes. Ce qui veut dire qu'au moment des fêtes, il pouvait y avoir dans Jérusalem jusqu'à 2,5 millions de gens qui y habitaient. Ce n'était pas la population habituelle, c'est le moment des fêtes où beaucoup de gens venus de tout le pays se rassemblaient là. Mais au moment où Jérusalem a été prise, c'était aussi un moment de fête. Et il évalue à 1,1 million le nombre de ceux qui ont péri dans cette prise de Jérusalem. C'est énorme. Lorsque l'armée romaine, qui ne se serait jamais lassée de tuer et de piller, ne trouva plus sur quoi continuer à exercer sa fureur, Titus commanda de ruiner toute la ville de Jérusalem jusque dans ses fondements. Cet ordre fut si exactement exécuté qu'il ne parut plus aucune marque qu'il y eût des habitants. Souvenez-vous de ce que Jésus dit dans Matthieu 24 au début du chapitre. Lorsque ses disciples lui font admirer la beauté du temple et de cette ville, il dit « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Les historiens de l'époque nous disent que c'est exactement ce qui s'est passé, au point qu'il n'y ait plus aucune marque qu'il y eût ici des habitants. Dans ce même chapitre de Matthieu 24, après avoir décrit ces signes et d'avoir transféré ces mêmes signes en rapport avec le retour de Jésus un peu plus loin dans le chapitre, Jésus dit « Le Fils de l'homme est proche à la porte. » Quand vous verrez ces signes, non pas avant la chute de Jérusalem cette fois-ci, mais quand vous les verrez dans le contexte de la fin des temps, eh bien, sachez que ce qui vient après, c'est le Fils de l'homme. Il est à la porte. Sans passer beaucoup de temps, j'aimerais reprendre quelques-uns de ces signes, simplement pour orienter votre réflexion sur le transfert de ces indications que Jésus donne sur notre époque. Les faux Christ et les faux prophètes pullulent de notre temps. Un sondage a été fait dans les années 1990 aux États-Unis, a été publié dans le journal USA Today. Ce sondage était fait sur 113 000 personnes et sur ces 113 000, 20 000 avaient déclaré avoir accepté les idées du Nouvel Âge, ce qui est une proportion extrêmement importante dans un pays qui se dit d'abord et avant tout un pays chrétien. Maintenant, les faux Christ et les faux prophètes, que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui, que ce soit Jim Jones, que ce soit Koresh ou Miranda, sont tous des gens que vous connaissez parce que l'actualité en parle et ce sont des gens qui attirent des foules. On se demande comment ces gens peuvent attirer des foules. L'évangile est prêché et n'attire personne. Et ces gens racontant des choses bizarres et demandant l'argent de tout le monde ont des millions de gens à leur suite. Vous y comprenez quelque chose, vous? Les guerres, remarquez que le XXe siècle est le seul siècle qui a été capable de produire deux guerres mondiales. Ceux qui les ont vécues s'en souviennent, que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre. Le XXe siècle a produit deux guerres mondiales. Un reporter disait ceci en émettant en direct de Hiroshima en 1945, William Ripley déclare « Je me tiens à l'endroit où a commencé la fin du monde. » Que dirait-il aujourd'hui? Effectivement, depuis, le temps a passé et la situation du monde est encore beaucoup plus fragile qu'elle ne l'était encore à ce moment-là. Cataclysmes de toutes sortes. Chaque année, 11 millions d'hectares de forêts sont détruits sur la planète. Pour avoir une information canadienne tirée du livre de Nicolas Huot, rien que dans cette région du Canada, la Colombie-Britannique, un hectare de forêt est abattu toutes les 30 secondes. Impressionnant. Toutes les 30 secondes. Et pour montrer à quel point toutes ces catastrophes que nous voyons autour de nous sont toutes liées les unes aux autres, dans le même livre, Nicolas Huot rapporte ceci par rapport à un médecin qui dit « Mon approche est simple. En tant que cancérologue, je me suis aperçu que le cancer est une maladie que notre société fabrique de toutes pièces et qu'il était en grande partie induit par la pollution de notre environnement. » J'allais dire, il n'y a pas besoin d'être médecin pour le dire, mais quand un médecin le dit, ça fait du bien parce qu'on se dit on n'est finalement pas si bête que ça. Et toutes ces choses sont finalement fabriquées de toutes pièces par le comportement de l'homme qui enclenche d'une manière ou d'une autre un dysfonctionnement général. Alors, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les cyclones, que ce soit les catastrophes sous une forme ou sous une autre, vous les connaissez mieux que moi, elles attirent l'attention du monde, elles attirent l'attention non seulement des chrétiens, mais de tous ceux qui réfléchissent. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 24, à la fin de cette première partie auquel je faisais allusion tout à l'heure, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. On a du mal aujourd'hui, et on a eu du mal peut-être jusqu'à aujourd'hui, à imaginer comment la chose serait possible. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde entier. Le monde est grand, et l'on voit nos pays dits chrétiens de tradition se déchristianiser, et on ne voit pas tellement comment le reste du monde se christianise. Mais il nous est dit, quand cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. J'aimerais vous donner simplement deux exemples. On pourrait en prendre de nombreux, vous pourriez vous-même en trouver pour illustrer ce propos-là. J'aimerais vous donner deux exemples que je trouve symptomatiques du progrès avec lequel l'Évangile va rejoindre des gens au bout du monde, des gens inaccessibles. Est-ce que vous connaissez le désert de Kalahari, quelque part perdu en Afrique du Sud, près de la Namibie? Quand on parle de désert, c'est un désert. Il y a là quelques petites images qui vous montrent que quand on dit désert, c'est désert. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez si vous reconnaissez ce personnage qui habite ce désert. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est le Bushman qui est le personnage central du film « Les dieux sont tombés sur la tête ». Vous l'avez vu sûrement, ce film-là. Eh bien, cet homme-là, il n'a pas été habité à Hollywood après avoir fait son film. Il est retourné dans son petit village au fin fond du désert. Il a continué à vivre comme tous les gens qui vivent là-bas. Il s'appelle Gokana. Et en l'an 2000, Gokana a été baptisé. C'est un homme qui a observé le quatrième commandement, qui respectait le jour du sabbat et qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Depuis, il est décédé. Mais il est un exemple parce qu'il était le premier de son village à avoir accepté Jésus comme son sauveur personnel. Dans cette région isolée et perdue du monde, l'Évangile a été apporté. Et aujourd'hui, ces gens dans ce désert peuvent écouter l'Évangile dans leur langue, et ceux qui ont vu le film ont compris que c'est une langue bizarre. Ils peuvent l'écouter avec des petits appareils qui marchent à pile. L'Évangile n'est pas écrit, il est dicté et ils l'apprennent par cœur de cette manière-là. Le nombre de ceux qui sont baptisés dans ce désert est croissant constamment. Pouvez-vous imaginer que dans ce désert, l'Évangile puisse atteindre ces gens? Un autre exemple, totalement différent, tout aussi incompréhensible d'ailleurs, mais pour d'autres raisons. En 1991, le Palais des Congrès du Kremlin est utilisé pour la première fois pour annoncer l'Évangile. C'est dans ce palais des congrès que se tenaient toutes les séances du Parti communiste de la Russie, pays athée qui a fait tout ce qu'il a pu pour éliminer le christianisme et en empêcher la propagation. Et lorsque l'Évangile a été annoncé au cœur même du Kremlin, ce sont les camions de l'armée russe, les camions militaires, qui ont transporté les Bibles pour qu'elle soit accessible à tous ceux qui participaient. Est-ce que c'est imaginable, ça? Que les camions de l'armée russe transportent des Bibles pour permettre à ces gens d'étudier la parole de Dieu dans le lieu saint, si l'on peut dire, du communisme? Dieu ouvre des portes à sa manière. Et lorsque l'Évangile nous dit la parole de Dieu sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Je crois effectivement que ces exemples, et je vous disais encore, ce ne sont que des exemples, illustrent qu'aujourd'hui, sous nos yeux, ces paroles de Jésus se réalisent et nous annoncent que nous sommes aussi parvenus à l'époque de la fin. Jésus disait de même, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, faisant allusion en particulier à la chute de Jérusalem. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On voit dans l'histoire que les paroles de Jésus ne passent pas. Elles sont éternelles. Et je crois que nous ferions bien, chrétiens d'aujourd'hui, de les prendre au sérieux pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Maintenant, je me pose la question, le temple de Jérusalem a été détruit en 536 par Nebuchadnezzar, une première fois, le beau temple de Salomon. À cause des abominations qui ont suivi, le temple de Jérusalem, lui aussi, le temple reconstruit, va être détruit en 70. Et nous avions vu hier une des raisons principales pour lesquelles ces destructions ont eu lieu. Il nous était dit, dans le livre de Jérémie au chapitre 17, « On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » De toute évidence, en fonction de ce que nous voyons dans la réalité, ce que Dieu a annoncé ici s'est réalisé. C'est-à-dire que les deux destructions de Jérusalem confirment qu'effectivement, vous n'avez pas écouté. Et qu'effectivement, Dieu a allumé un feu, une destruction de Jérusalem qui ne s'éteindra point. Je le mentionnais hier, le feu ne brûle plus à Jérusalem, pas plus qu'il ne brûle à Sodome et à Gomorre. Et Dieu avait annoncé que Sodome et Gomorre brûleraient et que son feu brûlerait toujours, pour indiquer non pas que le feu allait brûler toujours, mais que la destruction qui serait faite à Sodome et Gomorre serait une destruction permanente. Elle ne sera plus jamais reconstruite. On avait la même chose avec Babylone. Dieu parle ici de la même chose de Jérusalem. Le temple va être détruit et ce feu ne s'éteindra point. Le temple, effectivement, depuis l'an 70, n'a jamais été reconstruit. Et vous savez que c'est une préoccupation dans le monde d'aujourd'hui d'envisager la construction d'un troisième temple, de relever le temple. Il a été détruit deux fois, pourquoi donc devrait-il rester détruit pour toujours? Et c'est la préoccupation de beaucoup de gens dans le monde de planifier la construction du troisième temple. Seulement, la Bible nous dit ici qu'il n'y aura jamais de troisième temple à cause de ce que le texte nous dit. Et lorsque Jésus était parmi son peuple, combien de fois a-t-il été en butte aux accusations qui lui étaient portées alors que lui qui est le Créateur, celui qui a donné les 10 commandements, observait le sabbat en guérissant les malades et on lui reprochait selon la tradition. Jésus observait le sabbat. Et il dit, si vous n'observez pas le sabbat, voilà ce qui va arriver. Et effectivement, le sabbat est encore observé aujourd'hui par beaucoup de gens, mais pas comme Jésus l'a enseigné, ni même le jour où Jésus l'a enseigné. Le temple est toujours détruit, et la Bible nous dit qu'il ne sera pas reconstruit. Ce feu ne s'éteindra point, le temple ne sera jamais reconstruit. Et la Bible nous donne même la raison pour laquelle il ne sera pas construit. Nous avons là la raison pour laquelle il a été détruit. Nous trouvons dans la Bible la raison pour laquelle il ne sera pas reconstruit. Vous vous souvenez, lorsque Moïse a construit dans le désert ce que nous appelons le tabernacle, il l'a fait selon les instructions que Dieu lui avait données, selon le modèle que Dieu lui avait montré. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci, Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu a donné un modèle dans la vision, il lui a montré quelque chose dont il va reconstruire la maquette, si l'on peut dire ainsi. Il a vu l'original, il a fait la maquette. C'était l'origine de ce temple, le sanctuaire du désert et puis le temple de Jérusalem. Il a été détruit. Mais qu'est-ce que Moïse a vu ? L'Épître aux Hébreux nous le dit au chapitre 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pourquoi la Bible nous dit-elle que le temple ne sera jamais reconstruit? Simplement parce que Dieu veut que notre attention à nous, chrétiens des derniers temps, Ne sois pas attiré par un bâtiment quelque part sur la terre qui n'est jamais qu'une maquette humaine, mais Dieu veut que notre attention soit attirée sur le sanctuaire, le seul qui existe aujourd'hui, et qui est le sanctuaire céleste que Moïse a eu en vision, et par lequel il a reconstruit la maquette dans le désert. Maintenant, qu'est-ce qui fait de ce sanctuaire céleste quelque chose de si important? Le texte nous le dit, c'est que le Christ lui-même, qui était représenté par tous les services du temple d'autrefois, est maintenant dans le sanctuaire céleste en train d'accomplir pour nous le rôle que les prêtres avaient sur la terre. Il est en train d'accomplir dans le ciel ce rôle d'intercession et de jugement qui lui appartient en propre. Et il ne le fait pas avec des sacrifices comme on le faisait dans l'Ancien Testament, dans le temple, si beau soit-il. Il le fait par les mérites de son propre sacrifice qu'il a opéré pour nous sauver. C'est donc infiniment plus important de porter notre attention aujourd'hui sur le sanctuaire céleste que de le porter sur un bâtiment, si glorieux qu'on puisse le faire, quelque part sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'un autre temple soit construit, et c'est la raison pour laquelle il ne sera pas construit. La Bible nous le dit. Il y a un autre temple qui doit attirer notre attention. Il y a un autre sacrificateur qui doit attirer notre attention. Il y a un autre ministère qui s'accomplit pour nous et qui est crucial pour ceux qui vivent à la fin des temps. C'est là qu'il faut porter notre attention, pas sur un bâtiment construit quelque part dans le monde. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, résume la chose et dit simplement « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Les abominations commises par le peuple de Dieu ont conduit à sa désolation, à la destruction de Jérusalem et la destruction du temple, une fois et deux fois. Vous avez remarqué que toutes ces prophéties dont nous avons parlé ne s'adressent pas au peuple non-croyant, aux païens qui peuplaient le reste du monde. Ces prophéties s'adressaient au peuple choisi de Dieu. Et de la même manière, ces prophéties qui rebondissent jusqu'à la fin des temps s'adressent d'abord et principalement à ceux qui prétendent aussi être le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous l'appelons l'Église. C'est pourquoi l'Église est aussi amenée aujourd'hui à regarder dans la bonne direction, à regarder non pas à un temple à reconstruire, à une politique même religieuse, mais à regarder au Christ là où il est maintenant. Ne pensons pas, parce que nous ne voyons pas, que le ministère de Jésus s'est arrêté à la croix et qu'à la croix c'était terminé. Jésus est remonté au ciel. Est-ce qu'il prend des vacances là-haut? Le texte nous dit ce qu'il y fait. Il intercède pour nous. Dans Matthieu 24, Jésus fait allusion aux prophéties du prophète Daniel. C'est précisément dans les prophéties du prophète Daniel au chapitre 8 et au chapitre 9 que nous apprenons ce que Jésus fait dans le ciel maintenant. Et nous apprenons qu'à la fin des temps, Jésus va aussi juger le monde. Nous avons vu dans le texte d'Ézéchiel hier qu'avant la destruction, Dieu passait parmi son peuple pour mettre à part ceux qui avaient été fidèles à l'Alliance. De la même manière, Dieu passera dans son peuple à la fin des temps pour mettre à part ceux qui veulent être fidèles à l'Alliance, au texte de l'Alliance, à sa loi, aux 10 commandements, et en particulier au sabbat qui était mentionné dans la prophétie de tout à l'heure. Il faut donc s'attendre à ce que la même chose se passe à la fin des temps. Et la prophétie de Daniel nous explique qu'effectivement, c'est très précisément ce que Jésus est en train de faire maintenant. Il est donc de la plus grande importance que nous portions notre attention sur ce qui se passe dans le sanctuaire céleste. Là où se trouve notre Sauveur, il n'est plus sur la croix. Il est maintenant dans le ciel et nous avons besoin de son ministère dans le ciel pour pouvoir nous préparer à sa venue. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il viendra, le nombre de ceux qui se réjouiront sera bien faible. Vous avez remarqué dans le texte de Matthieu chapitre 24, celui que nous regardions tout à l'heure. Il est dit dans le troisième récit, « Lorsque le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Comment est-ce que vous pouvez imaginer que toutes les tribus de la terre se lamentent quand Jésus revient? Ça veut dire que ce ne sera pas une bonne nouvelle pour beaucoup de gens? Ça sera en réalité mauvaise nouvelle pour la plupart de nos contemporains. Je ne veux pas que ce soit une mauvaise nouvelle pour moi. Celui que je prie chaque jour parce qu'il est mort pour mes péchés, celui à qui je demande de pardonner mes fautes et de me préparer pour la vie éternelle, est-ce que je n'ai pas de la joie à attendre son retour? Il faut pour ça que je sache développer avec lui une relation là où il est. Non pas dans un temple fait de main d'homme, nous dit l'Épître aux Hébreux, mais dans le sanctuaire céleste où le Christ lui-même intercède aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Il prend ce rôle de sacrificateur et de juge pour préparer son peuple à la fin des temps. Et je crois que le Christ aujourd'hui invite tous ceux qui font attention à ce qui est écrit pour les préparer non pas à voir les signes, mais à voir la réalisation des signes dans sa prochaine venue. En réalité, l'étude de la parole de Dieu et de ce chapitre de Matthieu 24 doit pouvoir nous amener à prendre conscience non seulement des temps dans lesquels nous vivons, mais de la chance extraordinaire que nous avons d'avoir un Sauveur qui nous tend encore aujourd'hui la main et qui nous propose de nous préparer lui-même pour son retour. Avant de partir ce soir, je vous propose que nous inclinions la tête et que nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, devant ta parole ouverte aujourd'hui, nous sommes encore impressionnés de voir à quel point elle s'applique dans tous les détails. Tu nous avais dit, Seigneur, que pas un iota ne serait changé et nous nous en rendons compte. C'est pourquoi nous voulons nous en remettre pleinement à celui qui a donné cette prophétie, à celui qui est mort sur la croix pour nous, sachant qu'il est le seul qui peut nous conduire au travers du temps que nous vivons et nous permettre d'attendre son retour dans la joie et dans l'impatience. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir au fond de notre cœur la volonté de lire ta parole et d'y prêter attention, de nous tourner vers toi là où tu te trouves dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, pour nous préparer à ce retour. Que ce lien direct avec notre Sauveur nous rende aujourd'hui des chrétiens joyeux et confiants. Quoi qu'il arrive, c'est ce que nous te demandons au nom du Christ qui vient bientôt. Amen.